chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes bien sur Radio Campus 99.5 FM, Radio Campus Tour, bien entendu. C'est I Love Mes Cheveux, la quatrième émission de la saison 2. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Et aujourd'hui, j'ai des invités que je vous présenterai tout à l'heure, mais nous enregistrons cette émission à l'avance. Et donc, malheureusement, cette fois-ci, il ne sera pas possible de réagir en direct sur Instagram et de poser des questions à nos invités. Je rappelle néanmoins l'existence du compte Instagram ILMC 2025, tout attaché ILMC en minuscule, pour I Love Mes Cheveux, bien entendu. Et donc autour de la table du studio de Radio Campus Tours avec nous aujourd'hui Nada Awad. Bonjour Nada.
Bonjour.
Séverick Soulas. Séverick, bienvenue.
Bonjour, merci.
Et Emmanuel Terrones. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
J'allais dire Guten Morgen, mais on est enfin
au moment. Bis zu spät.
Oui, viel zu spät. Alors en l'occurrence, ça va être diffusé, mais j'ai failli faire le malin, mais ça va être diffusé à 9h30. Donc on va dire que si on jouait le jeu de la diffusion Guten Morgen passé, bon voilà, ça marcherait, mais là effectivement on enregistre un peu tard. Bref, donc, on est plutôt sur Narmetak. Et donc comme vous l'avez d'ores et déjà deviné, nous allons parler allemand, enfin pas trop parce que sinon je vais avoir du mal, mais mes invités pourraient faire toute l'émission entre eux en allemand, puisque Séverick et Nada sont étudiants, étudiantes actuellement dans le master Lani. On va revenir sur ce qu'est cet énigmatique master Lani, j'ai dû me refaire expliquer le sigle, et Emmanuel Terrones est enseignante, professeur des universités à l'université de Tours, au département d'études germaniques, si je ne me trompe pas sur le... J'allais dire département d'allemand, mais je crois que c'est département d'études germaniques.
Voilà. C'est parfait.
Et de la faculté lettres et langues. Alors, chers invités, pendant que je me démène avec la technique, parce que c'est toujours un peu compliqué avec moi, donc je vous ai invités, et donc j'avoue que bah, Séverick et Nada, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui, parce que vous étiez l'an dernier en mobilité Erasmus, et effectivement, bon, j'allais dire votre existence m'a été signalée, mais oui, effectivement, m'a été signalée par ma collègue Emmanuelle, ici présente. Alors, on va faire connaissance et on va aider nos auditeurs, auditrices à faire connaissance. Donc, Nada, tout d'abord, vous êtes donc en première année du master Lani. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu qui vous êtes, quelle licence vous avez faite ici, qu'est-ce que c'est que ce master Lani? Séverick peut intervenir, évidemment, pour compléter.
Alors, moi, c'est Nada Awad. Je suis marocaine et je suis venue en France pour justement... faire ma licence en LEA. Pourquoi LEA ? Parce que je savais que j'aimais bien les langues. Je parle notamment à peu près 7 langues.
Oula.
Et par contre, je voulais pas que ça soit uniquement une étude de langue. Et puisqu'on avait un module d'application qui inclut tout ce qui est économie, marketing, droit, tout ça, ça me paraissait assez complet, la formation en France, et c'est pour ça que je suis venue ici. Et du coup, le master Lani, c'est pour langue, affaires et négociations interculturelles. Mais en gros, c'est commerce international.
C'est le master, en fait, qui est la suite, on va dire, la plus logique à la licence de langues étrangères appliquées, LEA.
C'est bien ça.
Voilà. Et c'est vrai qu'il a changé un certain nombre de fois de nom. Quand vous m'aviez parlé du master Lani, j'ai dû demander à ma collègue qui est responsable du master Anne Urbanowski. Elle m'a dit oui, on a changé de nom. c'est quand même à peu près le même. Alors je suppose qu'il y a des différences, mais le même master qu'avant. Ben, merci. Je ne vais pas manquer de vous poser des questions sur votre polyglottisme après, mais on y reviendra. Séverick.
Donc bonjour, je m'appelle Séverick Soulas. Du coup, je suis en master Lani aussi, comme Nada. et j'ai fait une licence LEA anglais-allemand. Avant ça, j'étais en droit, mais j'ai lâché ça parce que ça ne me plaisait pas trop.
En droit pur, entre guillemets, ou en droit langue ?
En droit pur. Voilà, je suis né en Allemagne, donc je maîtrisais déjà l'allemand. Donc ça m'a aidé pour la licence, évidemment. Mais je voulais aussi des cours de droit quand même et d'économie, parce que ça m'intéresse aussi.
Alors on ne va pas repréciser ou re-rentrer dans le détail de ce qu'est exactement la filière langues étrangères appliquées. On a fait une émission au mois de mai dernier, avec notamment deux étudiantes de première année autour de la filière anglais-chinois, donc on a pu reparler un peu du côté application. Mais voilà, enfin, j'entends bien que le côté application était important pour vous, et donc c'est logique que vous ayez poursuivi avec le master de négociation internationale. Et donc j'entends des itinéraires biographiques qui vous, j'allais dire qui vous prédestinaient, c'est sans doute exagéré, mais qui vous prédisposaient peut-être aux langues. Et donc, c'est vrai que vous étiez bilingue avant de venir faire des études d'allemand, enfin d'anglais-allemand ou...
Oui, alors j'ai grandi avec trois langues, parce que vu que j'ai grandi en Allemagne, ma mère est slovaque et mon père français.
D'accord.
Donc j'ai grandi avec les trois langues et puis ensuite... avec l'école, tout ça, l'anglais s'est rajouté aussi.
Alors, on aura l'occasion de dire qu'a priori, vous ne vous destinez pas vraiment, réellement au métier de l'interprétariat et de la traduction. Mais si jamais vous changez d'avis à un moment donné, si vous avez le slovaque dans votre arsenal, sachez que c'est un énorme avantage d'avoir des langues européennes dites rares, qui en fait sont juste minorisées, en fait, hein, dans son... Voilà, presque comme ça... ça sans y penser, puisque si je comprends bien, vous l'avez un peu, voilà, vous l'avez appris comme ça, familialement, quoi. Et donc, Nada, vous parliez cette langue avant de venir à Tours. Est-ce que dans les langues que vous parliez, c'était des langues qui ont été enseignées, ou est-ce que vous en avez ajouté par les études, en fait ?
J'en avais ajouté juste par curiosité et par intérêt.
Mm-hmm.
Déjà, l'arabe, c'est ma langue maternelle.
Mm-hmm.
Ma maman est enseignante de français. Donc j'ai grandi un peu avec ces deux langues-là. Et au biais de mes études, y avait l'anglais qui s'était rajouté assez facilement. Et après avoir obtenu mon bac, c'est là que j'avais fait une formation de 6 mois pour apprendre l'allemand, juste comme ça.
Donc vous n'aviez pas appris l'allemand au
non,
lycée en fait,
pas
d'accord.
Du tout.
Parce que c'était ma question suivante, c'était on arrive en LEA en allemand, pas grand débutant mais pas loin peut-être, non c'est ça.
Petite anecdote, c'était une erreur pendant l'inscription d'avoir fait anglais-allemand.
Ah, vous voulez dire que vous aviez juste fait une formation de 6 mois et vous pensiez vous être inscrite sur un autre cocktail de langues en quelque
sorte ?
Non,
je m'étais inscrite en anglais-espagnol et troisième langue allemand. Ah. Et après, j'étais acceptée en anglais-allemand, troisième langue espagnole.
Ah d'accord, espagnol que vous aviez appris au lycée un peu
ou,
Non, même pas.
Pas.
Non, parce que j'entends bien qu'il y avait déjà plusieurs langues dans le mix, un peu dans vos études, donc j'entends bien que c'est... D'accord.
C'est juste un intérêt, je pense, personnel, surtout pendant l'été où on a des vacances et moi j'avais tendance à essayer d'apprendre une nouvelle langue parce que j'aimais bien ça tout simplement. Et après mon bac, je suis allée en Ukraine faire des études de pharmacie. Du coup, c'est là où le russe s'est rajouté au mix. Et je me suis rendu compte, je pense, à ce moment-là, qu'il fallait faire quelque chose avec les langues, puisque c'est quelque chose que je fais malgré moi et qui me demande pas vraiment un effort, si je puis dire. Et c'est pour ça que j'avais pas continué avec les études de pharmacie, parce que justement, j'ai eu un bac physique, donc c'est
j'entends
pas du tout littéraire.
Tous les deux, vous êtes en reconversion étudiante. C'est-à-dire qu'au départ, vous étiez parti vers des études qui n'étaient pas des études de langue,
ouais,
mais qui vous ont, voilà, vos itinéraires biographiques, votre intérêt vous a poussé à aller vers les langues. Et donc, je veux pas faire de la rétro-analyse, mais donc si je comprends bien, Nada, vous avez quand même fait une première année déjà de licence LEA. Dans les trois langues obligatoires, parce qu'en LEA, il y a deux langues au même niveau, plus une langue C, 2 heures par semaine, je crois. Finalement, sur les trois langues, il y en a deux que vous n'aviez jamais étudiées avant, que vous aviez étudié un peu par vous-même pour l'allemand, mais c'est tout.
Par moi-même pour l'espagnol. L'espagnol,
d'accord.
c'était l'été avant de venir en France, parce que on avait déménagé en fait au Maroc, la partie nord, mm-hmm. bah, ils parlent espagnol, oui, mm-hmm. arabe et espagnol, et le reste du Maroc c'est bah, arabe français. Mm. Et on avait déménagé quand je suis rentrée de l'Ukraine au nord du Maroc, et moi j'aime bien comprendre.
Mm-hmm. Il y avait trop de gens qui parlaient une langue que vous ne compreniez pas, ça vous énervait.
Oui, il y avait beaucoup de monde qui parlait espagnol, du coup j'ai appris l'espagnol pendant cet été-là.
D'accord.
Et c'est là où j'avais postulé pour LEA anglais-espagnol, parce que je me suis sentie très très vite à l'aise avec D'accord. cette langue. Même en regardant des séries ou des films, mm-hmm. C'est venu assez naturellement, je trouve. Et l'allemand, je l'avais fait après mon bac, mais c'était dans un centre de langue. Donc pendant quand même 6 mois, et mmh. après j'avais passé quand même mon B1, et que j'avais réussi. C'est B1, avec Goethe Institut.
Alors, je ne me souviens plus, et là on va peut-être aussi se tourner vers ma collègue, bien que Emmanuel, je crois, tu n'enseignes pas en LEA, mais tu es parti. Enfin, si, en langue C.
J'enseigne en langue C, c'est-à-dire l'allemand d'accord. pour débutants.
D'accord, alors justement, ma question c'était, puisque en LEA il y a la langue A qui est forcément l'anglais, la langue B qui est soit allemand, soit italien, soit espagnol, soit chinois. Et une langue C qui peut être commencée en débutant, l'allemand, il ne peut pas être commencé comme débutant, en théorie, si.
Si, il y a une langue C allemande.
Non, en langue B. En langue B.
Ah, en langue B, normalement, non. Parfois, il arrive que certains étudiants aient fait très peu d'allemand, voire pas du tout, c'est arrivé. Uh-huh. Alors, les plus téméraires s'accrochent et restent.
Donc, Nada,
voilà, donc Nada, mais bon, tu n'étais pas complètement débutant.
Voilà, Nada, c'est un profil intermédiaire.
Si je un niveau bien. B1 avant d'arriver, là, on n'est plus du tout dans un niveau débutant. Les niveaux débutants, c'est A1, A2. A2, déjà, on n'est plus trop débutant. On commence déjà à dire pas mal de choses. B1, c'est déjà beaucoup mieux. Mais non, normalement, voilà, ça reste des cas exceptionnels.
Normalement, la langue B, voilà. elle est calibrée sur la LV2 du lycée.
Voilà.
Donc 5 ou 6 ans d'allemand, alors peut-être pas à assez haute dose, mais en tout cas avec ce calibrage-là. Bien, ben donc,
exactement.
Donc voilà. Donc finalement, vous vous êtes retrouvé germaniste un peu par la force des choses, Nada, si j'entends bien. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas. Ce que j'entends, c'est que vous vous êtes retrouvé en anglais-allemand avec l'espagnol en langue C. C'était pas le plan de départ, mais visiblement, vous vous êtes accroché, ça se passe pas trop mal et vous avez persévéré même.
Non, ça ne me dérangeait absolument pas. Moi, par exemple, j'étais pas censée non plus étudier à Tours. J'étais acceptée à Amiens. Mais en fait, je m'étais juste trompée quand j'ai postulé à Tours. J'ai retrouvé que j'avais postulé pour LLCER ou quelque chose comme ça. Et du coup, mon dossier n'a pas été accepté. Mais j'avais reçu, je me rappelle, un mail dernière minute de la part... de monsieur Cassado qui me disait vous êtes accepté mais il faut venir demain, alors que j'avais trouvé un logement à Amiens,
oh là là.
Que j'avais payé et je suis venue. C'est juste quand il m'arrive des choses comme ça, je me dis oh, c'est le destin, on va voir, hein. On va tester.
Bon, okay.
L'allemand vous a choisi.
L'allemand vous a choisi.
Et Tours et vous a choisi aussi, visiblement.
Voilà, et Tours aussi.
Bah, très bien, très bien. Et donc, bah, voilà, donc, maintenant, vous êtes donc dans le master LANI, qui est langue des affaires et de la négociation internationale. C'est ça, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Je vais finir par le savoir à force. Et donc, bah, après quelques semaines de cours, pour l'instant, vous en pensez quoi? Ça se passe bien, quelles sont les différences avec la licence?
Bah, les différences avec la licence, c'est qu'on a beaucoup plus d'intervenants qui ne sont donc pas des enseignants.
Oui.
Et c'est beaucoup plus appliqué, on le ressent vraiment. Par exemple, pour le cours de négociation ou de marketing, ça, c'est vraiment, ça donne envie aussi d'apprendre, je trouve. Et c'est très, je trouve, même professionnalisant, parce qu'on apprend vraiment ce qu'il faut savoir et ce qui est attendu de nous, plus loin que juste les examens en master.
Et Emmanuel, quand on enseigne la langue C en LEA, tu l'enseignes jusqu'en troisième année ou tu le...
Oui, en général, j'ai les troisième année.
D'accord.
Donc on peut commencer. Donc je ne les ai qu'un semestre.
Et on commence à faire des, un peu plus d'économies et de choses comme ça quand même du coup un peu.
Non, ce sont des cours de 2 heures par semaine, ce qui est plutôt bien. On commence à. Alors c'est encore un niveau assez assez peu élevé. Hein. On est à un niveau A2.
D'accord.
Un début de A2. On n'arrive pas encore à la phase où on peut appliquer à.
D'accord, des, okay.
C'était ça l'économie.
C'était un peu ça mon idée ouais, allemand des voilà. affaires. Est-ce qu'on réussit à faire ouais.
Non, okay. pas du tout. Pas du tout. Okay. pas encore. En revanche, j'ai choisi une méthode qui permettait de donner des instruments, du lexique qui peut servir tout de suite en Allemagne à un jeune adulte.
Mm-hmm. Comment on se débrouille pour trouver le chemin de la gare et pour pas mourir de faim quoi.
Des entretiens, enfin des échanges avec des collègues, pourquoi pas avec des supérieurs. Enfin, il y a tout plein de choses comme ça qu'on commence à faire à ce niveau qui sont possibles. Ça reste un niveau modeste, on va dire, mais on peut déjà dire des choses.
Très bien, très bien. Parce que du coup, après, en master, là, j'ai bien compris, j'ai bien retenu que Nada, vous aviez fait l'espagnol en langue C. C'est vrai que c'était l'espagnol aussi en langue C.
Oui, moi aussi, je suis allé.
Et là, l'espagnol, vous ne le faites plus du tout dans le master.
Non.
Vous n'avez plus que la langue A et la langue B. Et l'espagnol, vous pensez qu'il va vous servir, que vous avez atteint un niveau suffisant pour qu'il puisse vous aider à pousser votre dossier quand vous chercherez à être recruté ou c'est quand même.
Pas en LEA, quand c'est langue C, en général, puisqu'on est concentré pas mal sur la langue P, essayer de l'améliorer. Par exemple, moi qui maîtrisais déjà pas mal l'espagnol et quand on l'avait en langue C, c'était vraiment au niveau débutant. Voilà. Et ça peut pas s'appliquer directement dans le métier de commerce international ou dans des entreprises. Par exemple, là, on doit trouver un stage. Et si on en trouve en Espagne, il faudrait que ça soit en anglais.
Ah d'accord, ok.
Et pas vraiment en espagnol.
Donc il faut trouver une entreprise qui recrute des gens pour lesquels la totalité du travail se fasse en anglais, en fait. Ouais. D'accord, ok.
Ouais. Alors après, tout dépend, je pense, aussi de vos souhaits pour l'avenir et puis de vos intérêts respectifs. Je me souviens de plusieurs étudiantes en langue C qui avaient décidé de partir en Allemagne au semestre 6. Donc c'était très courageux, je trouve, parce qu'au semestre 6, on a un niveau assez, assez bas encore. Enfin, en tout cas, tout juste suffisant. Parce que c'était plusieurs étudiantes qui étaient très très motivées en allemand, qui avaient envie de creuser tout cela, peut-être plus qu'une autre langue. Elles étaient parties. Alors je ne sais pas si c'est encore possible de partir maintenant en licence dans la langue C, mais ça l'a été et c'était plutôt bien. Et puis ça donnait un sens aussi à apprendre une langue C.
Oui, disons, je suppose que sur le terrain, du coup, on voit un certain nombre de choses. On va reparler bientôt des échanges Erasmus et notamment Emmanuel, tu nous parleras un petit peu des échanges dont tu t'occupes. Et puis on va parler d'Innsbruck, bien sûr, avec Séverick et Nada. Mais en attendant, nous allons faire une première pause musicale avec le choix de Séverick. C'est Einmal die Welt, vous me pardonnerez mon accent. Et c'est, alors je ne sais pas, parce que l'artiste s'appelle Crow, c'est ça.
Donc oui, c'est ça.
Vous voulez nous dire un petit mot, c'est qu'est-ce qu'on va écouter ou est-ce que vous voulez nous faire une surprise?
C'est un artiste que j'écoutais beaucoup quand j'étais petit, surtout quand j'habitais encore en Allemagne. Donc... justement, en cherchant une musique pour aujourd'hui, je me suis rappelé de ça, donc voilà.
Très bien, effectivement, ça a 12 ans, quelque chose comme ça.
Oui, voilà.
Donc on va écouter Einmal die Welt.
Als ob ich morgen tot wäre, laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. Yeah. Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos.
Stadt schauen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand können wir tun, was wir wollen, und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Und sie will Pelz tragen und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte, denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld.
Et nous écoutions Cro, Einmal um die Welt sur I Love Mes Cheveux, Radio Campus Tour. Et c'était le choix de Séverik, un de nos invités aujourd'hui. Et hors micro, ma collègue Emmanuelle Terrones avait une question pour Nada. Et comme elle n'a pas eu le temps de la poser hors micro, je vais lui permettre de la poser dans le micro.
Oui, je demandais à Ada où exactement elle avait appris l'allemand, si c'était le Goethe-Institut de Rabat ou...
Oui, c'était... j'ai passé le test au Goethe-Institut de Casablanca, mais j'ai passé 6 ou 7 mois dans un centre de langue normale dans ma ville de naissance, juste pour apprendre justement la langue et pouvoir passer le test. Pourquoi ? C'est parce que je pense que j'ai testé plusieurs choses après mon bac, parce que je ne savais, enfin, j'étais perdue vraiment depuis l'obtention de mon bac. Parce que justement, on sait qu'il y a plein de possibilités, plein de parcours à faire, et j'étais absolument pas prête à savoir lequel choisir. Donc il me fallait une année sabbatique, mais pas vraiment, parce que j'aime bien... apprendre en même temps pour voir ce que je pourrais faire ou pas. Et vu que j'avais un parcours scientifique, ça me faisait comme une pause. Et je ne me rendais pas compte encore qu'à chaque fois que j'avais des vacances ou une pause, je me dirigeais vraiment vers littérature, lecture et les langues. Oui, c'est vraiment ça, mais je ne me rendais pas compte. Parce que pour moi, c'était comme un passe-temps. Mais après ça, c'est là où j'étais partie pour faire pharmacie, ce qui n'avait rien à voir. C'est juste, pour moi, c'était une pause et je m'étais dit, autant j'ai appris la langue, pourquoi pas passer l'examen. Et justement, le B1, c'est un peu l'équivalent d'avoir appris l'allemand dans le lycée.
Oui, oui.
J'ai juste mais pas en... passé le B2 et tout, mais je pense que j'aurais pu aussi le passer. C'est juste...
En version intense, concentrée, accélérée. Ce que vous me dites me fait penser à quelqu'un qu'on a reçu ici et que je salue parce qu'elle va nous écouter. C'est sûr, une germaniste, mais qui parle une dizaine de langues. Et qui est, Elvire Corré, qui est venue dans l'émission au mois d'avril. Et qui, je reconnais beaucoup de choses de ce qu'elle peut dire dans ce que vous venez de dire sur l'apprentissage des langues. Donc, on salue Elvire aussi au passage. Alors, on va parler un petit peu d'Erasmus, et d'Erasmus liés à LEA notamment, et bien sûr aux pays germanophones. Et donc, Emmanuel, entre autres multiples activités, et je ne t'ai pas demandé à toi combien de langues tu parlais, mais je peux déjà témoigner que, outre le français et l'allemand à titre professionnel, j'ai pu tout récemment... confirmer et observer le fait que tu parlais parfaitement l'espagnol et l'anglais également, puisqu'on était dans un colloque en Andalousie ensemble. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres langues que tu parles et que tu veux préciser. Alors, mais
j'attends la prochaine pause pour en apprendre une cinquième.
C'est vrai.
Et d'accord. C'est suivre l'exemple.
Donc, en tout cas, voilà. Donc, je pense que, en tout cas, ce qui est bien, c'est que comme finalement, assez souvent dans cette émission, je suis le moins polyglotte de la salle et du studio. Donc c'est très bien. Ça me remet where I belong. Peu importe. Donc, les Erasmus à Tours. Les Erasmus en Allemagne, en Autriche.
Oui.
En Suisse.
Alors la licence LEA a cette particularité que les étudiants partent au sixième semestre en semestre de mobilité. Ils choisissent soit la langue A, soit la langue B. Et moi, je suis responsable des étudiants qui partent dans des pays germanophones. Donc en général, tout dépend des années, en général, ils sont une dizaine ou une quinzaine, ça dépend un petit peu. Voilà, et ils ont le choix entre plusieurs universités en Allemagne et une université en Autriche, c'est Innsbruck. Et Innsbruck propose une filière un petit peu différente de ce que les autres universités proposent. C'est une filière entièrement consacrée à la traduction et à la traductologie. Voilà. Et c'est vrai que comme Nada souhaitait s'orienter, enfin en tout cas ça les intéressait beaucoup. Je me souviens de la réunion d'information sur les différentes, différentes destinations. Et je me souviens de Cédric qui avait tout de suite réagi quand j'avais dit là, attention, c'est une filière uniquement de traduction. En général, les étudiants en ont très peur. Mais alors, Cédric, pas du tout. et voilà, donc vous étiez inscrit. Ouais. Et puis... vous aviez souhaité aussi partir un an, Nada, et on n'avait que deux places. Donc, on a, enfin, voilà, avec mon homologue à Innsbruck, on a
un petit peu... Vous avez réussi à faire trois semestres en une année.
Transformé tout
ça. Elle m'a sauvé la vie.
On a, voilà.
Oh, généralement,
on a négocié une nouvelle place.
Il y a des rééquilibrages parfois.
Oui, on peut toujours...
On fait partir une personne de moins l'année d'après.
On peut toujours. Non, c'est, il faut vraiment, vraiment changer l'accord Erasmus.
Ah, d'accord. Oh là,
oui, wow. Ouais. Alors maintenant, c'est bien. J'ai appris à changer l'accord Erasmus. donc c'est possible, ça se fait, et voilà, et tout d'un peut partir à Innsbruck pour cette filière. Alors c'est un échange Erasmus qui existe depuis déjà un petit moment. Il y a quelques années, une des professeurs d'Innsbruck était venue à Tours, Martina Maya, que vous avez eu tous les deux, je pense, oui. En cours, était venue pour une semaine Erasmus à Tours. J'avais suivi quelques cours de Martina. Voilà, elle avait parlé à ce moment-là beaucoup de son expérience en tant que traductrice assermentée. Voilà, c'était vraiment très passionnant. Voilà. En tout cas, pour revenir au semestre Erasmus ou à l'année Erasmus, voilà, il s'agit vraiment d'un emploi du temps uniquement consacré à la traduction et à ses différents aspects. Et là, je pense que c'est vous qui allez
effectivement les cuisiner. Mais je veux juste faire une parenthèse par rapport à ce que tu disais sur la venue de Martina Mayer comme professeur invité. C'est très souvent, et pas seulement à la faculté lettres et langues, qu'il y a des professeurs invités qui viennent pour une semaine, etc. Maintenant qu'il y a une émission de radio consacrée à ces questions-là, c'est-à-dire les échanges culturels, la diversité des langues, les universités des pays étrangers, je lance comme ça un appel et dites-le autour de vous. Si vous faites venir des collègues qui viennent enseigner une semaine ou deux semaines, parfois ça arrive que ce soit deux semaines, à l'université de Tours, et n'hésitez pas à venir frapper à la porte du studio de Radio Campus Tours, et I love mes cheveux, ça me fera énormément plaisir de les recevoir. Non, ça, c'était la minute auto-promo, mais voilà, dans un esprit de partage. Et donc, on en revient effectivement à qu'est-ce qu'on étudie en traduction et traductologie, combien d'heures, c'est quoi. Alors, peut-être Nada, parce que vous aviez d'abord suivi les cours du premier semestre.
Oui, alors, particularité déjà du système... d'éducation en Autriche ou je pense aussi en Allemagne, on peut choisir les cours.
Je confirme en Allemagne aussi.
Oui, du coup on pouvait choisir nos cours. Moi je pense que j'avais dans mon learning agreement, je pense 10 matières. À peu près, mais ça fait juste un total, il faut que ça fasse un total de 30 points ECTS. Et puis, la majorité, c'était des cours de traduction, de allemand-français, français-allemand. Et c'était, comment dire, bah, c'était très riche. En fait, on apprend une méthodologie derrière la traduction, et c'est pas juste, par exemple, des textes d'économie, de politique. C'est vraiment tous les aspects de la traduction. On avait aussi un cours d'interprétariat qu'on avait justement commencé avec Madame Mayer au deuxième semestre. Et c'était assez passionnant. Et la majorité des cours aussi, je les avais avec elle. Et du coup, elle s'est concentrée sur tous les aspects de la traduction. Traduire une chanson, traduire un poème, comment garder le rythme et en même temps le nombre de consonnes et que ça garde le même sens, mais que ce soit parfaitement bien traduit. Je me rappelle même quand on oubliait de mettre un espace ou si on mettait un espace en plus. Elle nous formait vraiment pour le métier. Ou même les mots, ça compte dans ton contrat de traduction. Mmh. Et on a traduit aussi des poèmes, des textes, enfin des histoires pour enfants. Et du coup, là, il fallait avoir le lexique pour les enfants. Par exemple, si tu te rappelles, Sévric, c'était le ABC. Parce que justement, c'était pas ABC en allemand.
Oui, par exemple, en allemand, on a des lettres comme le O avec les points tréma ou le A aussi. Et ça, c'était inclus dans le texte et donc fallait s'adapter au
français. Des abécédaires ou quoi? C'était un abécédaire ou c'était, parce que c'était pour faire découvrir aux enfants, pour apprendre aux enfants l'alphabet, c'est ça?
Oui, oui.
Et donc, du coup, il y a des choses qui ne correspondent pas ou qui n'existent pas en français, donc on est obligé de les ajouter.
Oui, donc fallait s'adapter, fallait trouver d'autres moyens.
Il fallait aussi voir si cette tranche d'âge, est-ce qu'on leur apprenait les umlauts, les deux points justement, ou pas encore à ce stade-là. Donc il fallait adapter tout le texte pour des enfants de cette tranche d'âge-là.
En traduisant du français vers l'allemand, du coup, pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire, ah oui, je comprends. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Vous traduisiez, en fait, par exemple, des textes pour enfants français. Vous les traduisiez en allemand et en se disant, est-ce qu'on met dedans des mots avec des lettres qu'ils n'identifient pas encore, comme les umlauts?
Non, là, c'était de l'allemand en français, je crois.
D'accord.
Justement, il y avait des umlauts, non?
Non. Ah bon? C'était du français à l'allemand. Et
moi, je l'avais comme ça en souvenir.
Non. C'est pour ça qu'elle nous avait dit, quand on a inclus les umlauts, qu'à ce stade-là, on ne leur introduisait pas encore. Enfin, ils connaissaient le son, mais ils n'avaient pas encore appris
la lettre. Le S7 aussi, peut-être, non, je ne sais pas. Non,
c'est vrai
que le S7, non, je ne sais pas.
Non, on n'avait pas mis de S7.
J'ai les souvenirs. En plus, le S7, moi, je sais que je suis vieux, donc j'ai appris l'allemand il y a longtemps. Mais le S7, j'ai l'impression qu'il a disparu.
Il n'a pas disparu.
Non, il s'est beaucoup...
Attention.
Alors, oui, Emmanuel.
Alors. Non. Maintenant, il répond à une règle précise. C'est-à-dire que autrefois, on trouvait des S7 un petit peu partout. Maintenant, le S7 est là après une voyelle longue.
D'accord,
ou une diphtongue. Si on a une voyelle courte, on aura deux S. Voilà. Donc là, il y a une vraie différence, une vraie raison logique. Alors que,
Exemple,
il n'y en avait pas vraiment.
Par exemple, sur le DAS, conjonction de subordination.
Voilà, et bien DAS, c'est DA2S.
C'est ça, parce que c'est ce qui me semble avoir
vu. Et avant,
vu.
On avait DAS7. Voilà,
DAS7, ce qui était absurde.
C'était un peu étrange. Alors que, non, maintenant, voyelle courte.
Donc, si j'entends bien, voyelle longue ou diphtongue, pour Scheiße, on continue à avoir un S7.
Voilà, Scheiße, on continue avec S7.
Vous voyez mon vocabulaire allemand qui est extrêmement étendu. Peu importe. Mais je ne traduis pas, c'est pour les non-germanistes, tant pis pour vous. Non, si Scheiße, c'est merde. Quand même. Je pense que tout le monde sait ça, même les gens qui ne parlent pas allemand. En fait, non. Mais bref, vas-y. Bon.
Oui, j'avais une question à vous poser parce que j'avais eu un jour l'expérience de traduire des sous-titres d'un documentaire. C'était un documentaire allemand et en allemand, et il avait fallu le traduire en français. Et ça, ça avait été un exercice vraiment intéressant parce qu'il faut respecter un certain nombre de mots pour que les spectateurs puissent, enfin les téléspectateurs puissent avoir le temps de lire la phrase. Donc il y a tout plein de contraintes comme ça qui s'ajoutent. J'avais trouvé que ça avait été un exercice vraiment passionnant, riche, parce qu'on est obligé de chercher des synonymes extrêmement courts, des expressions les plus courtes possibles pour que ça entre, mais que tout le sens soit là. C'est une très belle expérience. Je ne sais pas si vous avez eu ça dans vos cours aussi.
Oui, on a même chronométré quelques textes.
Ah, c'était un documentaire sur le savon de Marseille.
Le savon de Marseille, oui.
Et donc, il fallait vraiment respecter les temps.
Ouais.
Comme il y avait un narrateur aussi, il fallait un peu écourter nos phrases pour justement laisser place aux personnes dans la vidéo
aussi,
qui donc vont après parler. Donc, il faut laisser une ou deux secondes entre ça, parce que sinon, ça passe pas.
Donc là, c'était du doublage, en l'occurrence.
Donc là, c'est du doublage.
Mais même par rapport au texte, je ne sais pas si c'était au premier ou deuxième semestre, je ne m'en rappelle pas.
Un peu plus dans le micro, si vous pouvez.
Oui, pardon.
c'est ma seule contrainte ici.
Surtout avec Madame Mayer, elle était pointilleuse sur les détails, ce que j'ai apprécié énormément. Parce que justement, quand on traduit un article ou quelque chose comme ça, ou par exemple par rapport au marketing, on sait que respecter la mise en forme, la mise en page, il ne faut pas que ça soit plus long, il ne faut pas que ça soit plus court, il faut que ça garde
l'effet visuel.
Oui, voilà, du coup, il faut trouver le moyen de traduire le texte en gardant le sens, mais en gardant aussi la longueur du texte. Et c'est tout un travail très, très pointu avec Madame Mayer, mais c'était génial.
Oui, j'imagine. Oui.
Donc, Séverine, vous avez des souvenirs particuliers. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un type de texte, puisque Nada a expliqué que vous avez été initié à traduire des textes et même des non-textes, en fait, dans des supports et des genres extrêmement diversifiés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement...
Oui, il y a un type de texte qui m'a plu particulièrement. C'était un conte canadien qu'on a traduit donc en allemand, enfin du français en allemand, et quand j'étais petit, je lisais beaucoup de contes comme les frères Grimm par exemple, mm-hmm. et donc j'avais déjà un sens,
mm-hmm.
pour la mise en forme, le vocabulaire à utiliser dans la traduction, et ça a donné le rendu était vraiment pas mal et ça m'a vraiment plu aussi.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que culturellement, parce que tout ce dont on parle, ça recoupe aussi des différences culturelles. C'est-à-dire que vous avez été témoin directement et pendant un an ou six mois des différences énormes d'enseignement à l'université entre des pays, entre la France et l'Autriche, entre Tours et Innsbruck, etc. Il y a aussi des différences interculturelles. Vous parliez des contes. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que ça fait pas si longtemps que ça qu'en France, on considère les contes comme un genre littéraire noble, important. Perrault, il est reconnu comme un grand auteur depuis pas si longtemps que ça, alors qu'en Allemagne, enfin dans les pays germaniques, il me semble que les grands auteurs de contes, c'est les grands auteurs de la littérature nationale. Enfin,
ouais,
les frères Grimm, pas seulement eux d'ailleurs, Bechstein, enfin, et d'autres. Hein, mais... D'accord, donc vous aviez fait ça. D'accord, très bien, c'est bien. Et je signale d'ailleurs par rapport au sous-titrage qu'il y a des masters de traduction spécialisés, dont certains sont même spécialisés audio-vidéo. Au département d'anglais, pendant quelques années, on a eu dans le master d'anglais un peu généraliste, il y avait un cours de traduction audio-vidéo que j'enseignais, dans lequel on faisait ça, c'est-à-dire vraiment toutes les contraintes du sous-titrage, parce qu'on est, il faut pas couper, il faut pas aller à la ligne n'importe où, il faut pas des sous-titres de plus de deux lignes, ça c'est très évident. Dès que vous allez sur n'importe quel site et qu'il y a des sous-titres de trois lignes, ça a été fait par les amateurs, c'est évident, ça peut être correctement traduit, mais d'un point de vue visuel, c'est juste impossible. On n'a pas le temps de lire un sous-titre de trois lignes. Voilà, donc c'est des contraintes. Ce que visiblement vous avez appris aussi à Innsbruck, c'est que toutes les formes ont leurs contraintes. Il n'y a pas que les sonnets ou les chansons, mais toutes les formes, le marketing a ses contraintes.
Oui, ce qui est intéressant aussi dans le sous-titrage, c'est que ça oblige à faire des choix parfois. Puisque comme on est tellement contraint par l'espace, voilà, qu'est-ce qu'on va vouloir absolument transmettre en priorité, et qu'est-ce qu'on peut
Sacrifier.
Ouais. Sacrifier, ouais. C'est dur parfois. On essaie de tout...
De garder l'essentiel, mais...
On essaie de garder l'essentiel et puis de ne pas tronquer, évidemment, ce qui est dit. Et puis de ne pas rendre incompréhensible la suite du film ou du documentaire. Mais parfois, oui, on est obligé de faire certains choix. Et ça, c'est intéressant, je trouve, comme travail. Ouais.
Alors, on va faire une petite pause musicale avant de continuer de discuter. Et cette fois-ci, c'est le choix d'Emmanuel Terrones, une chanson du groupe, enfin de Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys, si je ne m'abuse. C'est l'histoire d'une jeune fille et d'un matelot, ce qui déjà en soi est tout un programme. Mais je laisse les germanistes découvrir. Et ensuite, éventuellement, on aura un petit commentaire sur le sujet.
Ihr Leute, höret die Geschichte, die ich heute erzähl zum ersten Mal. Glaubt mir bitte, was ich euch berichte, und zieht alle daraus die Moral. Es war ein Mädchen
mit einer tollen Figur
und ein Matrose
mit einer flotten Frisur.
Sie war aus London und er war aus Chile.
Das liegt ja furchtbar weit weg.
Er sprach von Liebe.
Hat er das wirklich gesagt?
Sie sprach von Treue.
So wie das jede Frau tut.
Und er erklärte, dass sie ihm gefiele.
Das ist ein uralter Trick.
Sie sprach nur Englisch,
weil sie Französisch nicht kann.
Er nur Chilenisch.
Das ist da hochinteressant.
Und so verstanden sie beide kein Wort. Doch seine Blicke und seine Seufzer und seine Küsse verstand sie sofort. Für ein paar Tage waren sie glücklich, wenn sie verliebt in die Arme sich sanken. Doch der Matrose und auch das Mädchen hatten den schrecklichen gleichen Gedanken. Er lernte Englisch,
weil sie Chilenisch nicht kann.
Und sie Chilenisch,
das zog ihn in ihre Bahn.
Ohne zu ahnen, was dadurch geschieht. Denn sie begannen, sich zu verstehen. Und das war leider das Ende vom Lied. Er lernte Englisch,
weil sie Chilenisch nicht kann.
Und sie Chilenisch,
das zog ihn in ihren Bann.
Ohne zu ahnen, was dadurch geschieht. Denn sie begannen, sich zu verstehen. Und das war leider das Ende vom Lied. Das Ende vom Lied.
Ici sur Radio Campus Tours, ça n'est pas la fin de l'émission encore, Das Ende, mais nous écoutions Ulrich Tukur. J'ai oublié déjà le titre. Es war ein Mädchen und ein Matrose, c'est ça. Et donc, Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix que je trouve un petit peu provocateur par rapport au sujet de l'émission?
Tout à fait. Non, c'était tout à fait dans la lignée de l'humour et l'ironie du titre de l'émission.
Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais j'apprécie énormément. Hein,
non, ouais. Non, je doute bien. Non, non, c'est l'histoire de deux amants qui s'aiment tant qu'ils ne parlent pas la langue de l'autre. Et à partir du moment où ils commencent à apprendre leur langue respective, eh bien... C'est assez end from lead. Voilà. C'est la fin de la chanson.
Voilà. Donc c'est voilà, donc c'est un peu c'est un message effectivement ironique ou peut-être un peu absurde, je sais pas comment il faut le dire, sur l'interculturalité et l'apprentissage des langues. Donc attention hein, parce que j'ai quand même des polyglottes autour de la table. Donc, avertissement hein, si vous tombez amoureux de quelqu'un, n'apprenez pas trop en détail leur langue visiblement parce que ça pourrait mal finir.
Non, on perd l'intérêt.
Ouais. Donc, je ne vais pas vous demander des anecdotes personnelles sur le sujet. Nous allons revenir parce que je vois des regards. Bon, bref, non, c'est pas là. Je ne fais pas Mélie Grégoire. Donc, une référence qui ne dit pas forcément grand-chose à tout le monde autour de la table. Mais on va revenir à vos études, à vos chères études de traduction et de traductologie à Innsbruck l'année dernière dans le cadre de votre échange Erasmus. Et alors. Une question qui pourrait se poser, c'était, dans la mesure où vous êtes cette année, Séverik et Nada, dans un master qui n'est pas un master de traduction, est-ce que ça veut dire que cette expérience a été à la fois enrichissante, mais vous a montré que la traduction et l'interprétariat n'étaient pas nécessairement la voie que vous comptiez choisir? Je ne sais pas, Séverik, si vous voulez commencer, je ne sais pas.
Bah, moi, de base, je savais que j'aimais les cours d'application. Mmh. Mais la traduction, j'ai toujours aimé, ça m'a toujours plu. Et puis il y a aussi des cours de traduction qui me plaisent plus que d'autres. Par exemple, la traduction à vue, ça j'aime bien parce qu'il faut être rapide, faut réfléchir vite.
Vous pouvez expliquer ?
On découvre un texte et on le traduit en même temps. Mmh. On n'a pas vraiment de temps de préparation. Et je trouve que ça rend la traduction un peu plus vivante, on n'est pas sur le bureau en train de chercher.
Ça, vous l'avez fait à Innsbruck?
Oui.
Vous ne l'avez jamais fait
Madame Mayer
aussi. Ça ne se fait pas à Tours du tout, ça?
Non, je ne pense pas qu'on l'ait fait.
Non.
Donc voilà, pour moi, ça c'était quand même une opportunité pour découvrir ce qu'est la traduction. Et pour moi, c'est pas une perte si je ne fais plus de traduction en master. Je trouve que c'était quand même une bonne expérience et c'était seulement enrichissant pour moi.
Vous aviez eu aussi des cours d'interprétariat?
Oui, mais au deuxième semestre et un seul cours avec Madame Mayer, donc on a eu une initiation, si je puis dire, à l'interprétariat. Et on faisait ça en groupe, je me rappelle, c'est bien ça?
Est-ce qu'il y a encore des cours d'initiation à l'interprétariat en deuxième année de LEA? Parce qu'il y avait ça avant, interprétariat anglais-français, français-anglais en option. Ça a été enlevé des
maths. Anglais, oui.
Ah oui, c'est ça, juste en pour l'anglais.
C'est
voilà.
Anglais, c'est en option. Il me semble qu'en anglais, il y a un cours d'introduction, initiation à l'interprétariat. Peut-être en droit
très
aussi.
Très introductif.
Vous l'avez suivi, ouais, vous l'avez suivi.
Oui, on l'a vu.
Oui, c'est vraiment les premières bases.
On
ne devient pas interprète en un semestre ni en une année, je pense. Oui. Donc du coup, je vous ai coupé la parole, mais sur l'interprétariat à Innsbruck.
Oui, donc pour moi, ça ajoute seulement à mes études et je trouve que c'était très enrichissant. Mais pour le master, ça n'a ni d'effet positif ni d'effet négatif, je trouve. Mm-hmm.
Moi, je trouve que ça a un effet positif dans le sens où on sait quand même pour faire court commerce international. Et si on trouve encore des stages dans un pays germanophone, par exemple, bah, ça a rajouté beaucoup de connaissances par rapport à la culture, par rapport à la communication avec les germanophones. Donc, c'est un grand plus, surtout si on n'est pas forcément bilingue dans cette langue-là. Et la traduction, je pense que c'est quelque chose, c'est un métier qui peut toujours se faire.
Oui, parce que vous avez vécu du coup quand même, alors pas tout à fait une année je pense, mais une année universitaire, donc 9 mois, je ne sais pas, 9-10 mois en Allemagne, enfin en Autriche pardon, et 4 ou 5 mois pour Séverik. Je suppose aussi que ça veut dire qu'on tisse des liens, qu'on parle dans la vie quotidienne, qu'il y a plein de choses qui se mettent en place de manière plus automatique aussi, du fait de... de vivre dans un pays germanophone. Mais, et sinon, l'Autriche, il y a eu des éléments, je ne sais pas, dépaysants, je sais pas, vous avez des choses où vous vous êtes dit, ah, mais tiens, c'est bizarre. Parce qu'il y a des variations, évidemment, dans la langue, me semble-t-il, par rapport peut-être à l'allemand que vous avez appris.
Il y a le dialecte tyrolien. Qui est très compliqué à comprendre.
Oui, vous avez l'air un peu dépité en disant ça, non?
Parce que je me rappelle, à chaque fois qu'on m'adressait la parole dans la rue, à chaque fois je répondais par la même phrase. Hordeutsch, bitte. À chaque fois, allemand.
En allemand standard.
Oui, en allemand standard, s'il vous plaît. C'est vraiment ma phrase en Autriche, je pense, pendant tout le long du séjour, c'était ça. Parce que même la conjugaison, elle est différente dans ce dialecte-là.
D'accord, ok.
Comme je sens, pour dire je suis, quelque chose comme ça. Ah, et c'est à chaque fois, il faut switcher et chercher loin pour comprendre.
Vous voulez dire qu'ils disent « ich fühle » pour « ich bin »
Oui, genre « ich bin » ou la « sie bin » Il mélange tout, il mélange la conjugaison. Je me rappelle qu'un enseignant nous avait filé un texte en allemand. Il nous a dit c'est pas l'allemand, c'est le dialecte. Et essayer de comprendre. Et c'était vraiment un puzzle le truc pour le déchiffrer, pour comprendre. On réussissait quand même à comprendre le fond parce qu'on le lit, donc c'est encore plus simple. Mais quand on écoute et on n'est pas...
Oui. On n'a pas la version écrite. Quand les gens vous parlent dans la rue, ils parlent peut-être vite.
Oui, mais en général, pour les cours, tous les enseignants, ils parlent en allemand standard. Même s'ils ont le dialecte, ils n'enseignent pas avec un allemand différent ou avec un accent différent. Donc c'est assez facile à comprendre. Mais c'est plutôt dans la rue ou... Mais quand même, ils ont l'habitude qu'on leur dise de parler un allemand standard, donc ils essayent de
parler. Oui, c'est une ville internationale, universitaire, etc. Donc.
C'est vraiment une ville touristique.
Oui, c'est touristique aussi. Mais...
Et je me souviens d'avoir rencontré un jour dans un colloque un collègue d'Innsbruck, justement. Et donc on se parlait en allemand, enfin, Hochdeutsch. Et puis, plus il se sentait à l'aise dans la conversation, moins je comprenais. Parce que plus il introduisait des mots, des expressions, puis à la fin, c'était plus que du dialecte. Et j'ai complètement perdu le fil.
Je comprends.
Et j'étais très à l'aise, pour le coup.
C'est vrai que vous avez eu la même expérience un peu de déterritorialisation ou de difficulté à comprendre.
Oui, vraiment, le dialecte là-bas, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre. Parfois, juste j'acquiesçais, je souriais, mais je ne comprenais rien.
Ah, c'est la réaction de base.
Juste que c'était ce qu'ils voulaient.
Et alors que l'allemand est quand même une langue que vous parlez depuis le berceau. Enfin,
oui, mais non pas...
Donc, est-ce que c'est encore la même langue, du coup? Parce que enfin, j'ouvre un débat à 10 minutes de la fin de l'émission qu'il ne faudrait peut-être pas ouvrir, parce que je ne suis pas linguiste, moi, au sens strict du terme professeur de linguistique, mais langue ou dialecte, il y a des fois certaines langues qui sont considérées comme langues de façon autonome et qui ont un pourcentage d'intercompréhension entre les locuteurs qui me paraît supérieur à ce que vous dites là quand même.
Il y a toujours un pourcentage. Si je prends par exemple
y a des points communs, je n'en doute pas.
Le marocain et l'arabe littéraire, ça n'a rien à voir.
Ce qu'on appelle l'arabe dialectal parfois d'ailleurs. Mais...
Alors on ne parle même plus d'un dialecte, on parle d'une langue à part entière.
Ouais.
Je dirais pas que c'est à ce point-là avec le dialecte cyrolien, mais quand même, il y a quand même un pourcentage de différence avec l'allemand standard. Et je sais que c'est une fierté pour les tyroliens, et je les respecte parce qu'ils sont vraiment régionaux. Ils disent pas « je suis autrichien », comme les Français « je suis français » ou « je suis marocain », ils disent « je suis tyrolien ». C'est vraiment la région qui compte le plus, où ils sentent un sentiment de fierté, un lien puissant avec leur région, donc c'est pour ça qu'ils mettent en avant leur dialecte et qu'ils sont contents. Et je pense que c'est ça qui rend encore l'accent encore plus fort et le dialecte encore plus fort, parce que justement, même d'une région à l'autre, c'est un dialecte différent, et ils peuvent même, je dirais pas se comprendre entre eux, mais il y a des différences qui sont assez claires.
Alors, j'ai une question parce que j'ai jamais vécu par là-bas, j'y suis passé en coup de vent il y a très longtemps. Le yodel, c'est un cliché folklorique ou c'est encore pratiqué vous avez pas du tout vu passer
Non, j'en ai pas vu ni entendu.
Ouais, c'est peut-être dans les campagnes, peut-être, ou peut-être pour les touristes. Peut-être. C'est peut-être des concerts de touristes, je sais pas. Non, mais c'est une vraie question parce que ça fait partie encore un peu des clichés qui sont mis en avant par les offices du tourisme parfois, non le yodel, je sais pas. C'est peut-être pas la région du yodel spécifiquement Innsbruck, je sais pas. Non. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent Tirol. Enfin, quand on a quelques clichés en tête, on pense à ça, mais c'est sans doute un cliché. Hein. Non, Emmanuel, tu as l'air de penser que c'est...
Alors, je ne suis pas une spécialiste de tout ça, mais ça s'entend peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Mais,
je pense que Madame Ayer en a parlé, justement, je ne veux pas me prononcer, parce que je ne me rappelle pas
visiblement,
vraiment.
On peut passer une année à Innsbruck sans être invité à des concerts de yodel ou être obligé de faire une chorale, de participer à une chorale de yodel, donc ça doit être un petit peu... On va dire que ça a
ça
du
peut
moins...
rassurer les étudiants prochains.
Oui, mais ça a du moins... Non, mais ça m'intéressait par rapport à la question aussi de ce que vous disiez sur l'identité, c'est-à-dire que la langue survit et peut-être certaines pratiques culturelles apparemment plus associées à la région dans des imaginaires un peu anciens, elles ne survivent pas, enfin peut-être, ou survivent moins bien. Donc c'était
peut-être
aussi...
Peut-être que si, mais nous, dans un contexte d'étudiants Erasmus, on était quand même pas mal... inclus et encadré par l'ESN. Et du coup, il y avait beaucoup de groupes pour étudiants Erasmus. Du D'accord. coup, certes, on avait accès à la culture tyrolienne, mais on avait tendance à être entre étudiants Erasmus.
D'accord. Oui, ça, c'est toujours ça.
Mais je crois qu'il y avait un cours non spécifique au Tyrol et à la... La géographie, la culture tyrolienne, je ne sais plus, il y a un cours comme ça, non?
J'avais Sprache und Kultur im Vergleich.
Ouais. J'ai vaguement le souvenir d'avoir vu ce genre de, d'intitulé de cours sur des. Sur des.
Learning
agreements.
Je ne sais pas, moi, je n'avais pas ça en tout cas.
Ouais. Mais je sais que c'était surtout avec Madame Ayer, tout ce qui était civilisation.
Ouais.
Et même quand. On a pas mal eu l'histoire du Tyrol et le lien avec l'Italie et comment ça a commencé. Oui, et justement, la raison pour laquelle il y a un ancrage à la région et une identité régionale en Autriche. Mais ça reste des cours théoriques. Donc, dans la vie quotidienne de tous les jours, oui, on voit à certains moments obisé du dialecte. Parce que la langue, après tout... Ça traduit beaucoup une culture et une identité. Mais à part ça, je pense qu'on était vraiment plus entre nous.
Oui.
On a même réussi à faire parler français à des Anglais et des Autrichiens. Donc je pense...
Bon, c'est bien. C'est bon, ça c'est le principe aussi des échanges Erasmus, hein, donc c'est très bien. Mais on va faire une dernière petite pause avec le choix de Nada. Avant de, je vous demanderai un petit peu une anecdote, si vous avez une anecdote chacun ici, hein, chacun, chacune, tous les trois autour de la table, pour donner envie, ou si c'est pas une anecdote, un message à faire passer pour éventuellement donner envie, mais ça sera après la pause musicale. Et il s'agit du choix de Nada, c'est l'Else de Naïka. Vous voulez nous en dire un mot? C'est une chanteuse franco-haïtienne que je ne connaissais pas, donc merci déjà de me l'avoir fait découvrir à moi.
Oui, justement, c'est dans le contexte de l'interculturalité. C'est les paroles qui m'ont touchée. À un moment donné, elle dit « On te demande d'où tu viens ?» Non, mais vraiment, d'où tu viens ?» Elle a dit « Mais on a tous des... » Comment dire, layers.
Des couches, ouais. Des couches, en français, ça ne sonne pas très bien, des couches.
Des couches.
Des strates, je ne sais pas, non, des strates, des un feuilleté, je ne sais pas, d'identité. Un feuilleté.
Oui, on va rester sur layers.
Layers, voilà. Des layers d'identité. On ne va pas traduire, ce qui est le comble, vu ce dont on parle aujourd'hui, mais enfin, bon, tout est possible.
On écoute, reste dans l'ironie.
Voilà, on continue dans des choix musicaux ironiques ou post-ironiques. Bien, donc, layers de Naïka, c'est le choix de Nada.
Ouais. Yeah, yeah. Oh, no, no. No, 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 no. Chérie, à la
allow me to lay the story. Knees deep and I'm in it for the glory. Just a girl trying to navigate the world. Big dreams in her hands and a complex identity. I hate the boxes, they suffocate me. Big claustrophobia, it's not simple. It's never simple. Late bloomer, took some time to figure out who I was. Felt hollow in my skin, wings clipped early, but I did alright. Caterpillar, chrysalis, boss lady, fly eye. Roll up and rest my eyelids. Been around the world enough to say this. Everybody's trying to find where they fit, but it all comes down to this. I got layers, you got layers, we got layers. I got layers, she got layers, many flavors. There's not one right way to be more than what the eye can see. Baby, all these layers keep me warm and make me me. And when they tell me that I don't look like I'm Haitian, I say, nah, get my renu. I finally found my peace and I'm done getting sentimental. To this, to that, not enough this, prove that. Lord knows, you get used to switching codes. Or tell me where you from. Where you really, really from? Citoyenne du monde, child of the world. Dans ce grand mélange, where do I belong? Got my roots from Haiti to Madagascar. TCK raised in Africa. French vanille avec la voix de miel. Find me mixing my ugali with poisson gosselle. I tell them I got layers, you got layers, we got layers. I got layers, he got layers, many flavors. There's not one right way to be more than what the eye can see. Baby, all these layers keep me warm and make me me.
Et de retour dans le studio de Radio Campus Tour avec l'aise de Naïka, j'allais dire de Nada. Non, Nada a bien choisi cette chanson, mais ce n'est pas elle la chanteuse, pas encore. Donc de retour pour I Love Mes Cheveux autour des Erasmus en Autriche et des études d'allemand en général. Donc on va se quitter dans quelques minutes, mais avant j'aimerais voilà, juste vous redemander ce que vous avez retiré, enfin ce que vous conseilleriez, pourquoi c'est bien de partir en Erasmus, je sais pas, Séverik.
Moi, ce que je retiens de mon Erasmus à Innsbruck, c'est vraiment le rapport avec les professeurs. Il est très différent de la fac, par exemple, en France. Vraiment, on est beaucoup plus proches. Les cours aussi sont, les étudiants sont moins nombreux. Donc ça permet vraiment d'avoir un dialogue avec les professeurs et de vraiment avoir ce sentiment de s'investir dans nos cours, dans nos devoirs, dans ce qu'on fait et de produire des choses de qualité. Donc moi je conseille en tout cas l'Autriche à tous les étudiants qui hésitent.
Quand vous dites on est moins d'étudiants par groupe, en moyenne en France, vous étiez combien en licence dans un cours moyen et en Autriche, c'est pour qu'on ait une idée, parce que j'avoue que même moi, je ne vois pas trop.
Par exemple, les cours où on était le moins nombreux, c'était les cours d'allemand, parce qu'il n'y avait que les germanistes, et on était autour de 18. Mm-hmm. Alors que là, à un cours moyen, on était peut-être 9 ou 10.
D'accord.
Mais moins des fois.
D'accord. Mm-hmm. Sachant qu'effectivement, en LEA, on est souvent les cours d'anglais, vous étiez plutôt 35-40, je pense.
Oui, voilà, c'est ça.
Et notamment sur les cours dits non de langue, c'est-à-dire civilisation, etc., où on est très vite à 45-50. Hein.
Ouais.
Oui, non, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes conditions, ça va de soi. Oui.
Alors moi, j'aimerais, pour la fin et avant de passer la parole aussi à Nada, encourager vraiment les étudiants en LEA à partir en pays germanophone, même s'ils craignent de ne pas avoir le niveau. J'entends ça tous les ans et ça me rend très triste parce que peu importe, on peut aller en Allemagne, vous l'avez dit, être très entouré par toutes les équipes pédagogiques, les secrétariats Erasmus, etc. sont là pour aider les étudiants tout au long du semestre ou tout au long de l'année. J'ai eu ces dernières années, ces 10 dernières années, l'occasion d'envoyer beaucoup d'étudiants Erasmus en pays germanophone. Voilà, ça s'est très bien passé, même pour des étudiants qui étaient débutants, je dirais.
Si je peux me permettre.
J'ai fait très peu d'allemand.
Je me suis occupé d'échanges en Corée du Sud, en Inde, et je m'occupe encore d'un échange en Afrique du Sud. Des étudiants qui sont envoyés dans un pays où, en fait, l'anglais est très loin d'être une langue parlée aussi évidemment qu'on pourrait le penser. Et ils en reviennent tout à fait enthousiastes et tout à fait vivants. Et voilà, donc c'est tout à fait possible d'aller dans un pays dont on ne maîtrise pas absolument, ni même aux deux tiers, la langue. Et même parfois on part, on croit qu'on parle parfaitement une langue et on est un peu déstabilisé, c'est ce qu'on a entendu aussi. Ouais, et une fois de plus, on survit aussi. Donc oui, partez dans les pays de langue allemande, il ne faut pas avoir peur de ça. Tout à fait. Nada, le mot de la fin, de la quasi-fin.
Alors moi je rejoins ce qu'a dit Madame Terrones dans le sens où justement ce que j'ai vu à l'université à Innsbruck, c'est que c'était vraiment bienveillant et encadré, et ils savaient qu'il y avait justement une ouverture à beaucoup de pays qui allaient faire leur mobilité en Autriche et à Innsbruck. Et on était accueillis avec une telle bienveillance que ça ne posait aucun problème de niveau de langue, qui finit par s'améliorer dans tous les cas puisqu'on est immergé dans la culture. Mais à part ça, je voudrais conseiller à tout le monde de faire l'expérience de partir en mobilité quelque part, que ce soit pour un semestre ou un an. Parce qu'on garde toujours, il y aura toujours du positif, du négatif, des aventures. Mais il y a des fois des rencontres pour toute la vie, notamment j'ai rencontré mon meilleur ami, c'est un Anglais là-bas qui vient me rendre visite fin de ce mois-ci. Je garde toujours contact avec quelques profs qui sont investis, pas que niveau cours où on se sent proche, comme a dit Cédric, mais même niveau personnel, ils sont investis même dans notre vie et le parcours qu'on va faire après, que ce soit dans cette université ou pas. Donc c'est vraiment une expérience à faire.
Effectivement, et je rappelle qu'on peut partir quelle que soit la filière, parce que vous, évidemment, langues étrangères appliquées, comme l'a rappelé Emmanuel Terrones au début de l'émission, le départ au sixième semestre est obligatoire, il est inscrit dans le cursus. Mais on peut partir quelle que soit sa filière, quelle que soit sa faculté, je tiens à le rappeler. Est-ce qu'il y a des petites réactions supplémentaires avant que je vous propose mon générique de fin que j'ai customisé pour correspondre un petit peu à cette émission? Donc on va lancer et puis je coupe pas tout de suite les micros, donc ne hurlez pas tout de suite. Hein, mais voilà. Donc c'est un classique, c'est un groupe que je pense qu'Emmanuel le connaîtra, mais un groupe autrichien culte des années 80.
Am Stammcafé, da lauft der Überschwing. Ulo, ulo, ulo. Wir sind die Stadtbekannten, lästungsche Karanten. Ulo, ulo, ulo. Und sieht man ihn nüchtern, wenn nüchtern sind wir schüchtern. Da sind wir nicht drauf und kriegt die Papapapapappen nicht auf. Wir holen uns die Power aus dem Bein und süß und sauer. Ulo. Geben uns die Kraft mit dem Gerstenzahar. Ulo, ulo, ulo. Hängen wir im Öl am Hocker, sind wir fettel und locker. Der erste Rausch im Schädel macht das Leben.
Alors, vous écoutez bien I Love Mes Cheveux, et ce n'est pas du tout de la propagande pour l'alcoolisme, pas du tout, pour les personnes qui comprennent les paroles. Nous écoutons Wir Jetten der Erste Allgemeine Verunsicherung, et donc un groupe autrichien. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point on entend que c'est autrichien ou pas, du point de vue de l'accent, je ne sais pas si...
Ouais, ça s'entend, oui.
Ça s'entend, il me semble, mais voilà, je ne suis pas un grand spécialiste. Bon, voilà, moi j'aime beaucoup cette chanson, qui est très ironique aussi d'ailleurs. Et donc, nous étions avec Nada Awad et Séverix Soulas en master première année du master Lani, qui sont venus nous parler de leur expérience à Innsbruck et avec Emmanuel Terrones du département d'études germaniques, responsable des échanges avec l'Allemagne et l'Autriche. Merci à tous les trois d'être venus.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, normalement. Et n'oubliez pas, ILMC 2025 sur Instagram, I love mes cheveux, toute l'archive est disponible en ligne. À bientôt, je vous laisse avec Erste Allgemeine Führungsschule.